Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste peintre et décorateur Rachid Koraïchi. Rachid Koraïchi, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlerons d'art, de sacré, de mystique, de spiritualité et aussi d'humanisme. J'ai une grande joie à vous recevoir, Rachid Koraïchi. Je vous présente à nos chers amis auditeurs. Vous êtes diplômé de l'École des Beaux-Arts d'Alger et de Paris. Vous êtes aussi diplômé de l'École supérieure des arts décoratifs de Paris. Et enfin, vous êtes diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris. C'est dire que votre formation vous a plongé dans l'art. Et on dit souvent dans cette émission et ailleurs que l'art est le miroir du sacré. Nous parlons aujourd'hui tout particulièrement de votre dernière œuvre, Les Maîtres Invisibles. Alors, de quoi s'agit-il au juste et pourquoi ce titre de Maîtres Invisibles ?
Je pense que on est du même pays et on a traversé à la fois la guerre d'indépendance qui était très dure pour notre génération. Et par la suite, on pensait vraiment vivre en paix. Puis on a eu de nouveau en 88-2000 le drame du terrorisme qui a duré quand même 10 années avec 250 000 morts. Ce qui fait un peu, quand on voit aujourd'hui les événements qui sont passés à Paris récemment, il y a 100 morts. Donc ça a bouleversé pratiquement la planète, alors qu'à l'époque, on était les premiers à essuyer donc les dégâts de ces déviances de l'islam. Et ça semblait ne déranger personne. Ça m'a beaucoup interrogé, d'abord parce que ma famille est originaire d'Arabie. Elle est venue au 7e siècle dans ce pays merveilleux, qui est l'Algérie. En passant par Kairouan.
Rappelons simplement que vous appelez Quraishi, ça renvoie à la tribu de Quraish, la tribu mécoise, dont est issu, allez, on dit encore une fois, le prophète de l'islam.
Exact. Et par la suite, naturellement, avec l'installation, l'inscription de la confrérie de la Tidjaniya, donc, la famille d'abord, et puis en même temps, dont on est, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le shir actuel, et c'est pas un shir, comme on le voit, simplement, dans les choses ont urbané, les docteurs d'État en physique des solides, formé à Orsay, sa femme est médecin, donc on est en train de construire autre chose par rapport au soufisme. Et puis, c'est vrai que les confréries en Algérie ont été aussi cassées par le système politique au départ, puisque avec le ministère des Affaires religieuses qui dirigeait pratiquement tous les serments à partir d'Alger, on parlait de révolution agraire, révolution culturelle, révolution industrielle, etc., etc. Et ces confréries étaient mises non seulement de côté, et surtout les biens qui étaient les biens habous, qui permettaient de nourrir les pauvres, d'encourager les formations, etc. Donc, ont été aussi enlevés.
Alors, expliquons qu'est-ce que c'est que des biens habous. Ce sont des biens dits de main morte, c'est-à-dire qu'on réserve aux indigents, aux pauvres, comme vous dites si bien, et qui sont en réalité des legs de ceux qui n'ont pas d'héritier, généralement.
Il y a ça aussi, on le retrouve aussi dans la chrétienté, je pense, par rapport aux églises. Et donc, ce qui fait que pendant pratiquement 40 ans, ce tissu s'est brisé alors qu'il maintenait une société. Et par exemple, nous, on entendait que des gens allaient voir un juge ou aller au tribunal, au commissariat. Le moindre problème, même dans un couple, les gens allaient voir le shir. Et le shir réglait assez rapidement les choses. On l'a vu récemment quand il y a eu des troubles très importants dans la zone du Mzab, où le shir a mis une grande contribution.
La zone du Mzab, c'est du côté de Gardaïa.
Gardaïa, oui, toute cette zone-là, donc, Sahara presque centrale, donc de l'Algérie, pas loin, notamment de la zone de Wadsouf, où on est. Donc tout ça dit qu'il y a quand même quelque chose qui existait et qui est aujourd'hui plus que jamais, je pense, après tout ce que s'est passé en Algérie, on se dit, c'était quand même très important. Pour faire justement une référence aux choses encore plus rapprochées, au Mali, les groupes islamistes ont saccagé, ont cassé pas mal de tombeaux de Tidjani, de Chir, donc soit Tombouctou et ailleurs. Donc ça, c'est dire quel est le problème qui se pose.
Et l'un de ces casseurs, en tout cas l'idéologue, a été récemment jugé et condamné par le tribunal pénal international.
Exactement. Et donc là, on est en train de reconstruire, donc de recomposer, de reconstruire donc tous ces lieux donc référents à notre islam apaisé, tranquille, de paix, de fraternité et surtout de positiver dans la société, d'avancer avec la société.
Alors quand vous avez parlé de confrérie Tidjaniya, expliquant pour ceux qui ne le savent pas encore que c'est une des confréries mystiques et soufies, et vous, le cheikh actuel, est à la fois un homme d'une grande spiritualité, mais aussi un féru et fin connaisseur des sciences dites dures, exactes et pures.
Exact.
Et vous-même, finalement, quel a été aussi votre cheminement imprégné que vous êtes de toute cette spiritualité propre à votre famille?
Ben, moi, je pense qu'on a eu la chance, c'est vrai, dans la période coloniale, de vivre dans ce milieu-là. Pour la simple raison d'abord que l'éducation à l'arabe, dans la langue donc de l'arabe contemporain, je parle pas donc du dialectal donc algérien, était pour nous fondamentale. On l'a appris, bon c'est vrai que nous on a fait des formations très dures, qu'aujourd'hui on dirait c'est inimaginable, puisqu'il fallait se lever aux aurores, à l'appel de la première prière. Je suis né dans la région des Aurès, donc la neige, l'hiver, c'était quand même des montagnes de neige. Il fallait aller à l'école coranique, donc laver la tablette donc, et la sécher près du vendeur de beignets, parce que lui, il avait déjà allumé son feu. L'écrire, la réciter au maître, revenir à la maison prendre le petit déjeuner, repartir en cartable à l'école laïque, c'est à l'époque ça s'appelait l'école indigène de garçons, d'un Veda. De là, quand on sortait en déjeuner, on repartait à l'école laïque, de l'école laïque direct à la médersa, où là, on apprenait donc la grammaire, le vocabulaire, les textes, donc autres que textes sacrés, qui nous permettaient donc d'avancer dans la formation de la langue.
Et la madrasa n'est pas ce qu'on croit, celle qui produit les horreurs des talibans.
Absolument.
La madrasa est une école où l'on dispense le savoir qui a été dispensé.
Absolument. La science, l'algèbre, les mathématiques, la physique, l'astronomie et tout ce qu'on peut. On avait des maîtres formidables, formidables. D'ailleurs, le beau-père de Bariza Khayari, que vous connaissez, était un de nos maîtres à cette école de madrasa, à Mbeda. Et puis, donc, à partir de là, donc, quand on rentrait à la maison, il fallait faire les devoirs, dîner et réciter le Coran avant de dormir. Donc, c'était une journée qui commençait à 5h du matin, qui finissait à 10h le soir, non-stop. Donc, c'était dur peut-être au départ, mais aujourd'hui...
Et vous ne rechignez pas, vous-même et vos camarades, donc il y avait une discipline de fer.
Voilà, c'était une discipline d'abord très importante, et puis le père et surtout le grand-père veillait absolument à ça. Parce que c'était aussi un acte de résistance d'apprendre cette langue. D'autant que chaque fois qu'on a eu des problèmes, que mon père était dans la résistance, chaque fois que les parachutistes débarquaient à la maison, les premières choses qu'ils prenaient, c'est tout ce qui était écrit en arabe. Que ce soit des livres de comptes des fermes ou des dépôts de céréales ou de laine de mon grand-père, ou ces textes simplement philosophiques, coraniques, mystiques, autre chose. Donc la langue était devenue un vrai danger. Par contre, c'est vrai aussi que le regard que j'ai posé enfant, c'était aussi sur les murs de la maison où étaient calligraphiés beaucoup de textes. Naturellement, c'était des textes coraniques à l'époque, mais en même temps, au sol, on avait des tapis qui étaient tissés à la maison par des femmes qui faisaient ce qu'on appelle la tuisa. J'explique peut-être ce que la tuisa. La tuisa, c'est peut-être un acte, en fait, de travail en commun. C'est-à-dire les femmes qui venaient à la maison, le métier était toujours tissé dans une salle, la salle principale. Les femmes continuaient la suite de celles qui les ont devancées. Et en fait, il n'y avait pas de dessin préparatoire, mais c'est une lecture faite par les gens de ces régions quand elles lisent le tapis, elles le lisent comme un livre. On dit ça, c'est le sostodar, le centre de la maison, ça c'est l'oum, c'est l'échelle, et ainsi de suite. Donc ça s'expliquait, donc il y avait des codes de ces signes, de ces traces qui étaient sues.
Et cette beauté qu'on trouve dans les tapis, ces entrelacs, ces enchevêtrements, ces figures géométriques, étaient presque une sorte d'improvisation ou c'était voulu travailler, préparer en amont?
Pas du tout. En fait, c'était de l'improvisation. Et les gens, quand ils venaient discuter, pas à la télé d'abord, à l'époque, heureusement, ce que nous a pas mal sauvé, que les femmes viennent discuter ensemble, se retrouver, parler de leurs problèmes personnels, familiaux, sociaux, économiques, etc. Et en même temps, c'était l'occasion de se retrouver et de faire collectivement des choses. Je parle des tapis, je parle aussi à l'époque, aujourd'hui on le revoit ici à la mode, mais à l'époque il y avait des tatouages, des tribus. On savait dans la rue, si on voit une femme ou un homme passer, la tribu des Harakda, des Memcha, etc. Donc, parce que la lecture des codes de tatouage était lue et sue.
C'était presque des emblèmes de telle ou telle tribu.
Absolument.
Et donc vous avez vécu, grandi dans ce milieu imprégné d'art finalement et de codes artistiques.
Mais à l'époque, on ne parlait pas du tout d'art. Pour nous, c'était quelque chose de... un milieu naturellement fait comme ça, pas autrement. Ce n'est que par la suite. Et aussi grâce à ma mère, qui était une femme formidable, parce que nous, on est d'une famille, disons, d'aristocratie religieuse. Ma mère est née à Châteaudun-du-Rhumel, vécue à Constantine. Son père était parmi les premiers généraux indigènes de l'armée française. Donc, il a fait plusieurs guerres, il a fait celle de la Crimée, celle du Tonkin, et plein de les combats aussi à Lorée, en Allemagne, etc. Et donc, elle a vécu dans un milieu totalement différent. Au point qu'à l'époque, mon grand-père n'en voulait pas. Il voulait que mon père épouse une cousine, donc du clan, de la tribu, etc. Et le chir de l'époque, donc le grand-père du chir actuel, avait dit à mon grand-père, écoute, il aime cette femme, il faut qu'il l'épouse.
Alors, vous parlez du chir de la confrérie.
La confrérie, la Tidjania, exactement. Oui. Et il lui disait, vous verrez, elle deviendra plus Tidjani que les Tidjani. Ce qui a été le cas. En même temps, c'est une femme qui était très instruite. Ma mère était très instruite, elle est arrivée jusqu'au lycée à l'époque, ce qui est rare. Elle savait jouer de la musique, elle jouait au tennis, elle portait des jupes au-dessus du genou. Bon voilà, c'était une très très belle femme. Ce qui fait qu'en même temps, elle a eu à l'époque de la colonisation le premier prix de dessin de France, parce qu'on était département. Et malheureusement, pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle l'a eu par Pétain et... Quand il y a eu De Gaulle est arrivé en Algérie, au moment où ils ont monté donc la résistance, donc à partir donc de ces zones-là libres, on dit libres à l'époque, ma mère a déchiré ce diplôme. Moi, je le regrette parce que je l'ai toujours dit, mais tu aurais pas dû le faire. C'est l'histoire de France, c'est une histoire réelle. Bon, on est contre naturellement, mais en même temps, c'est une phase. Tu étais une indigène sous la botte d'une colonisation et tu n'as rien demandé au bon Dieu. On te l'a donné. Pour nous, c'est important. Ce n'est que par la suite, quand mon père a été arrêté à plusieurs reprises, mais en prison, que ma mère a été obligée de travailler, entre guillemets,
pour des actes actions de subversives considérées comme telles, qui sont des actes de résistance contre le colonialisme.
Oui, il était à la fois au maquis, il était en prison. Donc voilà, c'était des périodes comme ça assez difficiles. Et à l'époque, c'était grâce à De Gaulle qui a commué sa condamnation à mort, donc en prison à vie. Bon, naturellement, il a réussi à échapper à un moment donné. Et puis bon, la vie a continué autrement. Par contre, ma mère s'est mise beaucoup à ce moment-là à découper. Donc, à l'époque, on recevait des hebdomadaires comme les De France, c'était Nous Deux, des catalogues de mode, etc.
Dans lesquels il n'y avait pas encore Femme d'aujourd'hui.
Ça commençait, je crois, mais avec des calques pliés dedans, avec des dessins donc de robes, de châles, de broderies, etc. Et je la voyais à genoux sur des grands tapis, en train de décalquer, de reprendre des choses, de couper, etc. Et par la suite de broder. C'est peut-être ça aussi qui m'a permis par la suite de beaucoup travailler sur le textile, dont ces textiles les mettre invisibles.
Bien. Alors, merci de nous avoir donné cette longue genèse, cette gestation, et qui a fait en vous à la fois plus que l'inspiration, cette vocation d'art, et vous êtes vous-même allé vous inscrire à l'école des beaux-arts d'Alger dans un premier temps.
Exact. C'est vrai que je pense que jeune, je tenais une forme de liberté, mais formidable. Je ne pouvais pas imaginer une seconde d'aller travailler dans un bureau, avoir des horaires, avoir un patron, un directeur ou un président ou tout ce qu'on peut avoir dans la normalité. En partant du principe que la vie était tellement courte, c'est vrai que dans cette zone des Aurès, la guerre était très dure et enfant, on était confronté à des morts brutales et subites. Et je me suis dit, la vie est trop courte, autant la vivre avec le bonheur qu'on peut avoir. J'ai voulu faire l'école des Beaux-Arts comme tous les parents du monde. On dit, mais comment tu vas vivre? T'as pas un salaire mensuel, t'as pas une sécurité sociale, t'as pas une protection.
On ne vous a pas dit qu'est-ce qu'on va faire de toi.
Pas trop, mais disons, plutôt pensons à toi, comment tu vas faire un jour pour vivre et éventuellement vivre en famille. Donc, c'est un choix, en fait, non seulement délibéré, mais je pense que c'est une forme presque, je dirais, d'auto-psychanalyse. Parce qu'on a tellement de choses ressassées, tellement de choses difficiles à traverser. Et je pense que l'art et la culture fait que c'est tout ce qu'on partage de l'humanité aujourd'hui.
Alors, dans votre trajectoire de vie, nous passons très vite de l'école des Beaux-Arts d'Alger à celle de Paris. C'était une sorte de continuité, une consécration. Vous voulez avoir d'autres maîtres?
Moi, à mon avis, c'était plutôt sur un coup de, je dirais, entre guillemets, c'est pas le cas, mais je dirais, entre guillemets, de colère. Parce qu'à l'époque, on était très militants. Bon, c'était aussi l'Algérie, du grand festival panafricain, des aides et de soutien solidaire avec toutes les nations encore colonisées. Je parle de la Guinée-Bissau, des Jukavers, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, du Vietnam, du Laos, du Cambodge. Bon, il y en avait beaucoup. De l'Amérique latine aussi beaucoup. Et tous ces gens-là, des Black Panthers qui venaient à l'époque à Alger. Et toutes ces rencontres avec ces mouvements de résistance ont fait qu'on avait une prise de conscience assez forte. Et c'était aussi la période de Boumediene, quand c'est l'école des Beaux-Arts d'Alger. C'était une période très dure. Il y avait la première base de ce qu'on a appelé chez nous la sécurité militaire, la SM. C'était pas facile. Donc, il y avait une agitation estudiantine, comme partout, heureusement, qui dévançait les choses. Et puis, à l'époque, il y avait pas mal d'opposants au roi Hassan II du Maroc, à l'époque en Algérie. Et Boumediene, à un moment donné, d'un accord avec le roi du pays voisin, les a fait remettre, donc, à la monarchie. En sachant très bien ce qu'allait se passer. Il y avait l'époque encore l'histoire de Tazmamart et autres. Et c'était un coup de colère.
Tazmamart étant cette prison, hélas, tristement célèbre,
voilà.
Où on disparaissait, on ne savait pas où est-ce qu'on était, on disparaissait de la terre.
Exactement. Et puis, ça m'a un peu donné un électrochoc dans cette politique, ce pays qui se dit soutien et solidaire avec tous les mouvements de résistance, qui se trouve à livrer des gens et séparés des familles, parce qu'il y a des gens mariés avec des Algériennes et l'inverse aussi, et des familles délivrées donc comme ça à tout ce qu'ils risquaient. Donc j'ai pris mon bagage, je suis parti à Paris, où il y avait la sœur aînée de ma mère vivait ici depuis longtemps, c'est une résistante aussi de la Fédération de France. Et là, je me suis inscrit aux arts décoratifs et j'ai redémarré donc sur une autre marche de vie qui a été très positive. J'ai eu des maîtres formidables, donc aux arts décoratifs, qui sont malheureusement décédés. Je pense à Despierres, je pense à Ronner, etc. Le Foll, et ainsi de suite. Et c'est en finissant l'école des arts décoratifs, je me suis dit, bon, j'ai une formation que je n'ai pas encore très bien prise, celle de la lithographie, de la gravure, ainsi que d'art monumental. Et c'est là où je suis allé à l'école des Beaux-Arts pour continuer un cycle. Moi, l'idée, c'était d'avoir entre les mains et dans la tête les outils de travail de réflexion. Que la matière ou la technique ne bloque pas une réflexion ou une sensibilité. Je voulais vraiment être outillé pour ça.
Et donc, vous devenez artiste, peintre, graveur.
Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de gravures, de lithographies, etc. Mais toujours dans la tête que je ne suis pas de la formation de l'école de chevalet occidentale. Puisque la famille est dans le Sahara, dans le désert, que mon regard posé très tôt sur les peintures et les gravures rupestres donc du Tassili, que je prends de la zone de Djanet, la zone de Tamarrasset, à l'extrême sud de l'Algérie. Donc, et c'est là qui, pour mon regard, c'est notre Louvre extraordinaire à nous, qui est ce musée à ciel ouvert, que Monod et d'autres ont beaucoup traversé, beaucoup travaillé dessus. Et je me suis dit, ces gens qui viennent dans cette zone, qui étaient des pasteurs, qui n'ont pas de formation dans les écoles d'art comme moi, qui ont créé les premiers murs de communication de l'humanité. Mais sur le même plan que ce qu'ont fait Lascaux, Altamira, la Grotte Chauvet, Brescia et d'autres en Afrique du Sud, en Amérique latine, et qui nous ont donné d'une grande leçon d'une lecture de l'art plastique.
Bien. Et pour finir cette première partie où nous faisons connaissance davantage avec l'homme et aussi avec l'artiste, et pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à l'urbanisme?
C'est vrai que pour moi, la cité est fondamentale. Pour revenir à des lieux d'actualité, Alep, où j'ai beaucoup travaillé, c'est une ville qui existait 5000 ans avant Jésus-Christ.
Et qui a toujours été peuplée sans interruption.
Absolument. Dit-on. Donc sans interruption, jusqu'à malheureusement, aujourd'hui, que le drame qu'elle vit. Et les choses des cités ne sont pas rien. C'est des regroupements de gens, à des moments précis de l'histoire de l'humanité, et qui ont commencé... Parce que nous, quand on voit ça à partir de l'Occident, on pense aussi aux toiles, aux gravures, aux peintures. Mais là-bas, et surtout le lien par la suite avec l'arrivée de l'islam, c'est la fabrication des choses qui sont liées à ce qu'on appelle la civilisation de l'islam. que ce soit le travail des étameurs de cuivre, des gens qui travaillent l'ébénisterie, des gens qui travaillent le stuc, des gens qui font la sculpture, mais avec les graphies, les calligraphies, etc., sur les marbres, sur les stucs, sur donc des matériaux, que ce soit la céramique et autre chose. Donc, c'est vraiment lié à l'art de la vie au quotidien. C'est pas dissocié. C'est pas des écoles qui forment, mais c'est des ma'allem et des maîtres.
المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'artiste peintre et graveur Rachid Qureishi, diplômé des deux écoles, de l'école des beaux-arts d'Alger et de Paris, diplômé aussi de l'école supérieure des arts décoratifs de Paris et enfin diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris. Nous parlons tout particulièrement aujourd'hui du dernier ouvrage intitulé « Les maîtres invisibles », donc des maîtres au pluriel. Et vous avez fait dans l'ouvrage, et là j'en appelle à l'imagination des auditeurs et à leur rêverie au sens de Gaston Bachelard, pour imaginer, percevoir le livre. D'un côté, vous avez des étendards en coton, et de l'autre, vous avez au moins 14 mètres que vous avez choisis, et c'est ce dont vous allez nous parler, Rachid Qureishi.
En fait, il y a quand même des leçons extraordinaires que ces maîtres, depuis le 7e siècle, le 8e, etc., nous ont données, dont on n'a pas tiré des leçons, qui sont des traces de partage d'humain à humain, sans barrière entre les cultures, surtout entre les religions, et ça c'est fondamental. Et chacun d'entre eux a mis sa pierre à cet édifice donc de mystique. On verrait dans la chrétienté Saint Thérèse d'Avila, on verrait donc d'autres grands mystiques du christianisme ou du judaïsme qui sont aussi accolés donc à ça. Moi, je pars aussi de ce principe, c'est vrai, dans les écoles laïques, on est toujours effarouché dès qu'on parle de religion. Même si nous, moi je parle pour moi, bon, si on est ancré dans la culture de l'islam, dans la civilisation de l'islam, c'est une globalité, bon, qui n'est pas à dissocier. Donc, je pense que même si on le prend dans la laïcité comme une forme de philosophie, de chemin de philosophie de l'existence, pour l'enseigner de cette manière, je crois qu'on aurait fourni à ces jeunes de banlieue et à ces jeunes éradiqués, une autre texture, une autre lecture de cet islam.
Ces jeunes radicalisés,
oui,
dont on voudrait éradiquer la radicalisation.
Voilà. Donc, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est un intégriste laïque, on dit oui, il n'est pas question de soutenir des écoles, de soutenir des formations, etc. Moi, je pense, pour moi personnellement, que la culture est une globalité. Englobant ça dans la culture, les gens oublient peut-être que Cortés, au nom de la religion de Jésus, au nom de l'amour pour les autres, a génocidé toute l'Amérique latine. N'oublions pas les guerres de 100 ans, les guerres de religion. Encore il n'y a pas longtemps, en Irlande, chrétiens et protestants se tuaient tranquillement. Donc, c'est pour ça que je dis, il est peut-être important de dire que les choses autrement, de dire que ne confondons pas la religion et ceux qui la dévient absolument.
Parce que la noblesse de l'enseignement évangélique et de l'enseignement christique a été pervertie en l'espèce, tout comme la révélation coranique est tout aussi avilie par le comportement des terroristes abjects.
Voilà. Nous, malheureusement, cela, c'est le dernier en date, et on en parle beaucoup, il faut en actualité, malheureusement. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent actuellement, je dis pas dans la discrétion, parce qu'en fait, on les met pas en avant. C'est sûr qu'au lieu de venir faire cette émission avec vous, j'avais jeté une grenade dans la rue, la planète entière aurait parlé de moi. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut maintenant vraiment réfléchir. Il y a beaucoup de petits groupes qui commencent aujourd'hui à se rassembler, à réfléchir, pour ne pas être manipulés par les uns ou par les autres. Commencer à se dire, c'est vrai que chaque fois on nous dit, et vous, pourquoi vous ne parlez pas? Personne ne vous tend d'abord un micro, et puis moi je ne suis pas représentant de l'islam, ni en France, ni ailleurs, ni ambassadeur d'un pays, ni d'un autre. on est des gens en vie. On vit avec les autres dans une paix extraordinaire, dans un échange, dans une complicité.
Et vous avez envie d'amour, de bonté et de miséricorde.
Absolument.
Vous êtes un homme en vie, mais vous avez envie aussi de fraternité.
Et on le fait et on le vit ensemble. Donc c'est dans ce sens que je dis que ce n'est pas un hasard. Alors ce projet est parti de deux choses. D'abord, vous avez remarqué, je pense, sur les images qu'il y a dans ce livre, que les graphismes sont dessus, sont des graphismes noirs sur blanc. Le drapeau de Daesh est noir avec un dessin blanc. C'est juste l'inverse.
Dans cette manière. Donc, vous ne l'avez pas fait exprès, mais c'est fait comme
non,
ça.
Non.
Ah, vous l'avez fait délibérément.
Ça a été délibérément. Eux, ils disent sur leur drapeau, ils reprennent malheureusement la ilaha illallah,
la profession,
la profession de foi, alors que c'est vraiment une profession de dureté, de violence absolue. Là, on fait juste l'inverse. Alors, ce projet, je l'ai réalisé comme je fais souvent. Moi, je dessine les dessins préparatoires dans mon atelier à Paris. Donc, je fais toute la thématique de ce que j'appelle une installation donc dans mon atelier. Et après, je choisis le lieu du monde où j'ai les meilleures mains, les meilleures traditions de travail, donc dans la culture de l'islam. Comme on dit ici, qu'on travaille avec les compagnons du devoir, qui forment des gens dans ce qui est le mieux, la taille de pierre, l'ébénisterie, le bois, la forge et le reste. Et je suis parti de la période pratiquement fatimide, au départ, où les étendards travaillent, et remontant beaucoup plus loin en Égypte, revenir à la tradition des pharaons. Alors, j'explique ça.
Alors, la période fatimide, pour nos auditeurs, c'est le califat chiite, finalement, puisque ça se réfère à Fatima, la fille du prophète. Globalement, pour donner des dates, c'est entre 969 et 1171, et c'était un califat sous lequel avaient prospéré à la fois les arts, la culture, la connaissance. Et puis, il y avait une relative, le mot n'est peut-être pas tout à fait juste, de tolérance, parce qu'il y a des maisons pour cela, comme on dit, mais en tout cas, une vie plutôt amène, et qu'on ne retrouve pas, hélas, maintenant.
Voilà, et très riche, surtout foisonnante de culture. En fait, j'ai travaillé, l'idée, c'est de travailler avec le coton qui est cultivé sur les berges du Nil, déjà. Donc voilà, c'est une culture. Ce coton-là a été utilisé du temps des pharaons pour faire les bandelettes d'un moment des pharaons. Donc voilà, on remonte loin dans le temps. Les prêtres, quand ils embaumaient et qu'ils mettaient donc ces cotons autour du corps des pharaons, quand ils finissaient pour certains, et surtout la période des pharaons noirs qui sont dans le Soudan actuel, qu'on appelait le Nil bleu. Donc, ils cousaient avant de fermer le sarcophage, des tests prophylactiques sur ces cotons. C'est des textes d'accompagnement. Par la suite...
Et de préservation du sort, c'est pour ça que c'est prophylactique.
Aussi. Les chefs des tribus africaines, qui jouxent donc le Soudan actuel, ont pris cette tradition, ce qu'on appelait les appliqués. Donc c'est un coton sur un autre coton, ce qu'on appelle les appliqués, cousu à la main, l'un sur l'autre, pour faire les fameux manteaux des rois africains. Si certains sont allés dans les musées à l'époque d'art africain, ou la fondation d'Aper, etc., ont vu ces textiles au musée du Quai Branly, ces textiles où il y a un textile brun clair sur un textile brun encore plus foncé et un textile plus sombre, ainsi de suite, et qui font cette texture de dessin graphique qui ont beaucoup inspiré Paul Klee à l'époque, entre autres personnes. Donc je me dis, revenons à cette chose essentielle qui est cet acte formidable, et le pharaon part avec cette part de la terre d'Égypte, ce coton cultivé, irrigué, qui l'accompagne dans l'au-delà. Donc voilà un peu le cheminement philosophique.
Oui, et c'est la naissance même du projet, et puis l'idée qui le sous-tendait. Maintenant, si vous permettez, à la suite Kolenchi, vous avez choisi 14 mètres, il y en a davantage. Qui dit choisir, dit renoncer. Quels sont les présupposés qui ont prévalu au choix de tel ou tel maître, d'autant plus que vous avez commencé, et à titre personnel, je m'en réjouis, par une mystique, par une femme, Rabia al-Adawiya, morte au tournant du 9e siècle, 801-802 à Bassora.
801, oui.
Et elle est née en 717, donc une bonne espérance de vie. Et pourquoi est-ce que vous avez commencé par elle?
Parce que l'humanité a commencé par la femme, par Ève, qui nous a enfantés. Même si Adam était pour quelque chose. On est né aussi de nos mères. Donc, ce n'est pas aussi un hasard. Et le projet, je dis en guillemets, civilisationnel et mystique de la Badawiya, c'est celui aussi qui peut rappeler l'histoire de Marie-Madeleine en chrétienté.
Parce qu'elle était une joueuse de flûte, elle a connu l'amour des hommes, elle s'en est détournée pour l'amour de Dieu, etc.
Voilà, donc c'était donc riche. Elle était en plus végétarienne à l'époque déjà. Donc ce qui ne paraît, elle aimait les animaux. Et les animaux venaient de manger dans la main, les oiseaux venaient becquer donc dans sa main, etc. Donc pour moi, elle, c'est fondamental parce que peu de gens en parlent, peu d'imams en parlent. Aujourd'hui, je sais que les intellectuels de l'islam, naturellement, la connaissent très bien, les exégètes la connaissent beaucoup. En Occident, pas beaucoup. Donc, je pense, parce que souvent on dit, ah oui, les musulmans, vous mettez la femme de côté. Et quelque part, et chez nous on le dit toujours, le paradis sous les pieds donc des mers, et tous on a bon, tous les Méditerranéens, je dirais, les Corses, les Grecs,
depuis la mamma,
voilà, italienne et autres. Donc les mers sont très importantes pour nous, et donc je voulais commencer par elle d'abord parce qu'elle était artiste, elle était musicienne au départ, elle était grande mystique. Rabaa veut dire la quatrième, parce qu'elle était la quatrième fille dans sa famille, donc la quatrième donc dans sa famille, pauvre, elle était esclave aussi, donc elle a vécu une vie très difficile. Et en même temps, elle disait, je donne mon corps à mes amants et mon cœur n'appartient qu'à Dieu. Donc ce qui est quand même une manière extraordinaire à l'époque déjà, d'oser dire ça et de le vivre, surtout. Et je voulais la lier par la suite à un deuxième mystique, Mansour al-Hallaj, qui est né en 858, décédé en 922, donc on remonte assez loin.
Décédé, exécuté.
Exécuté, parce qu'elle a été carrément crucifiée pour avoir dit « An al-Haq, je suis la vérité ». C'est quelqu'un qui a refusé de se dédire, et ça sent très bien où il allait, donc pour le dire aussi. Donc il y a à la fois ces mystiques sont morts, je pense donc... à certains mystiques de la chrétienté aussi, qui ont subi la même chose. Il y a la décapitation avec l'histoire de Salomé, donc Saint Jean-Baptiste. Il y a donc beaucoup de cheminements comme ça qui se retrouvent. Après, je suis allé à Sidi Abd al-Qadr Jilani.
Vous allez vite dans cette galerie.
Alors,
un mot encore sur Mansour al-Hallaj. Hallaj est un surnom.
Oui.
C'est le quart d'heure des consciences.
Absolument.
Je le dis à celui qui travaille sur des étendards de coton, et c'est suite à un procès de quasiment 12 ans qu'il a fini par être, hélas, condamné par les rigoristes pour cette expression « je suis la vérité ». Et donc il s'est pris pour Dieu pour cela même, et il les a effarouchés.
Moi je pense dire qu'il s'est pris pour Dieu, moi c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Moi je le verrais plutôt avec une parole divine où Dieu dit « je vous ai créé à mon image ». Je ne suis pas Dieu, mais c'est l'image de Dieu. Et dans ce sens, c'est aussi toute l'histoire des mystiques, dans la globalité, où le rapport au miroir est fondamental. Parce que les miroirs, on ne fait plus attention, mais c'est la première fois on s'est vu dans une flaque d'eau, pas dans un miroir. Donc, mais en fait, on voit notre visage à l'envers de ce qu'il est. Donc on n'est pas Dieu, on est à l'image de Dieu, donc c'est autre chose. Et puis c'est vrai que dans le miroir, toute notre vie, on se voit à l'envers, et on meurt sans jamais se voir réellement. Mais c'est celui qu'on vis-à-vis, qu'on voit dans votre réalité, et c'est réciproque de l'autre côté. Ce que veut, c'est le besoin de l'autre pour exister dans sa vraie réalité. Donc voilà, c'est tout ce cheminement, et puis il y a les grands textes de Jalal Din Rumi sur les miroirs, sur lesquels on reviendra aussi, qui sont très importants.
Oui, on peut y aller, si vous voulez, directement, sinon on peut poursuivre dans l'ordre que vous avez choisi, dans cette belle galerie de ces très grands portraits. Donc Mansour al-Hallaj, exécuté hélas par les rigoristes de son époque, pour un délit d'opinion, et en plus ce qu'il avait dit était juste, puisque... Dieu est partout pour ceux qui y croient. Et le cœur de l'homme est le temple de Dieu, comme disent les mystiques musulmans.
Et juste pour faire une parenthèse, il y a l'artiste Ben qui un jour avait mis un cube au musée du Palais de Tokyo et qui disait, puisque Dieu est partout, il est dans cette boîte. Donc je pense, puisque Dieu est partout, donc il est réellement partout.
C'est le panthéisme, finalement. Dieu est partout. Allons-y, prenons encore un autre maître, si vous voulez bien.
Eh ben, si vous voulez, donc, on peut parler peut-être de Rumi.
Alors, parlons de Rumi. Donnons sa trajectoire de vie, 1207-1273. Donc, c'est tout le XIIIe siècle.
Absolument. Il est né, lui, donc, dans ce qui est l'Afghanistan actuel.
Oui.
Donc, ce qui n'est pas un hasard, qui déjà à l'époque était en guerre. Donc, c'est pour ça que je fais toujours la bascule. Rien n'a changé, pratiquement. Puisqu'à l'époque, son père, qui était lui-même soufi et imam, l'a pris avec lui pour partir à Konya. Et à l'époque...
Dans l'Anatolie actuelle.
Dans l'Anatolie actuelle, donc, où il y a le grand cœur, où est enterré donc Rumi lui-même, dans son mausolée, là-bas. Et à l'époque, il y avait deux autres mystiques qui devaient se voir. Donc, Ibn Arabi, qui est venu de Murcie, donc en Espagne. Moi, je dis toujours, avec un petit sourire, que c'est le grand mystique européen, parce qu'il est né en Espagne,
et pour
à Murcie.
Et certains, même de tous les temps, puisqu'il est docteur Maximus, oui, le Cheikh Al-Akbar, le plus grand maître métaphysicien.
Absolument. Et il devait rencontrer un autre mystique, l'Attar.
L'apothicaire.
Donc, Farid al-Din al-Attar. Alors là, on est en 1145. Il est décédé en 1221. Donc, ils avaient une rencontre qui se devait se faire dans la région de Konya. Et Rumi arrive avec son père. Il avait 13 ans. Arrive avec son père. Donc, son père, Attar, Ibn Arabi, se retrouve avec Rumi là, jeune garçon, là, fuyant donc souvent cette guerre. Et c'est le départ de ce jeune enfant dans ce cheminement formidable encadré par ce triptyque. Et je pense que ce n'est jamais des hasards. Quand Rumi part sur l'histoire de la musique, c'est vrai aussi qu'on dit que pour les exégèses et les gens qui sont des docteurs un peu...
Encore une fois, rigoristes.
Rigoristes, oui. Ils disent qu'est-ce que c'est la musique et la danse. Et n'oublions pas que les islamistes aujourd'hui interdisent la musique et la danse.
On a eu un hurluberlu qui a cru dire à des enfants que si vous écoutez la musique, vous serez démonisé. Ouais. Alors il s'est repenti depuis, puis s'est inscrit à l'université pour apprendre l'intérêt de la musique et le fait d'être sensible à la beauté de l'art musical.
Voilà. Donc, et déjà à l'époque, donc, la musique donc, et la danse étaient fondamentales de la manière de prier Dieu, d'adorer Dieu, de lier le ciel et la terre. Et donc, et pour là, c'est fondamental. Alors, c'est les gens qui regardaient Darwish Turner voyaient un peu la manière et l'habit de ces Darwish. Je fais juste une parenthèse. On fait pas attention, mais ils ont une coiffe qui est pointue, qui monte vers le ciel, donc comme une pyramide d'ascension vers le haut. Quand ils dansent, ils viennent d'abord avec le manteau noir sur les épaules et les mains croisées comme un défunt. Et quand la musique commence, d'abord ils saluent le maître, tous se baissent devant le maître. Un par un, derrière lui. Quand la musique démarre, ils déploient doucement leurs bras et ils ouvrent une main vers le ciel pour recevoir l'offrande du ciel. Et la deuxième main va vers la terre, c'est l'offrande du ciel donnée à la terre.
Et le flux divin passe par l'homme vers la terre nourricière.
Absolument, vers la terre nourricière. Donc, et quand tu commences à danser, donc le manteau noir de la mort descend sur le sol et ils sont en habit blanc de virginité, de pureté, etc. Et ils tournent un peu au rythme des planètes autour donc du lieu du Sama, du lieu donc de cérémonie.
Et de l'audition de la musique.
Et de l'audition de la musique. Donc je pense que ça c'est fondamentalement important et ce n'est pas rien. Et aujourd'hui plus que jamais, donc c'est pour ça que je dis toujours, les arts sont à la base vraiment de l'humain. Regardez si on fait un bilan depuis qu'est-ce que nous reste comme trace de l'humanité, c'est que la culture. Même si on part des gravures rupestres, qui sont les premiers relevés donc, des choses qu'on a aujourd'hui, les artistes on s'en souvient, les musiciens on s'en souvient, etc. On oublie les généraux, on oublie les maréchaux, on oublie les chefs d'État, etc. Reste la culture qui a un lien commun à tous. Moi, quand je vois Picasso au MoMA à New York, ou quand je vois Matisse à la Tate Moderne de Londres, pour moi, je ne dis pas Matisse est français, Picasso est espagnol, ou entre autres, il est hongrois, etc. Pour moi, c'est ces artistes qui ne sont plus là et continuent dans leur générosité à donner à l'humanité.
Et vous-même, vous dites que vous dédiez cet ouvrage à l'humanité.
Absolument, oui. Parce que je travaille accompagné de musique. J'écoute la Kalas, j'écoute Om Kulthoum, Wurda Jazaïria, Pavarotti, j'écoute Charles Aznavour, Léo Ferré et d'autres. Donc pour moi, ils m'accompagnent, ils sont plus là, mais Charles Aznavour est vivant, mais on parle des autres. Ils continuent à m'accompagner. Et je ne peux travailler qu'en écoutant la musique, en étant bercé aussi par ces sons-là, qui rythment aussi ma création.
Eh bien, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Rachid Qureishi, artiste peintre, graveur, très sensible à la musique, vous venez de nous le dire. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'école des beaux-arts d'Alger et de Paris, vous êtes diplômé de l'école supérieure des arts décoratifs de Paris, et vous vous êtes intéressé aussi à l'architecture et à l'urbanisme, et vous êtes diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris. Nous parlons de votre dernier ouvrage intitulé « Les maîtres invisibles ». Et là, nous étions en train d'évoquer cette galerie de portraits de grands maîtres mystiques musulmans. Et vous nous parliez à l'instant des derviches tourneurs, cette confrérie fondée par Jalaluddin Rumi. Oui. Et alors, quelqu'un d'autre, encore sur les 14 noms que vous avez choisis, est-ce que vous voulez bien nous parler, par exemple, d'Ibn Arabi ? Nous l'avons cité tout à l'heure,
oui.
Davantage.
Ibn Arabi, donc, né à Murcie en 1165, il est décédé en 1240.
À Damas.
À Damas. On le dit, c'est le plus grand des maîtres, le grand maître, etc. Bon. C'est vraiment l'intellectuel de cette galerie, le grand intellectuel de cette galerie. Donc, naturellement, il a eu de grands spécialistes en France et ailleurs pour travailler dessus. Je pense à je pense même
à Safi.
Ou à sa fille Claude Adas. Je pense aussi à l'archevêque d'Alger, à Monseigneur Henri Tessier. Je pense à Monseigneur Duval aussi, donc il leur s'est référé beaucoup. Donc on avait en Algérie une église chrétienne formidable avec laquelle on est très très liés.
Izutsu, le japonais, c'est pour dire le rayonnement planétaire de l'homme.
De l'homme arabe, il est planétaire. Et puis il a fait un cheminement, parce qu'il était lui au départ dans une famille de Séville. Donc à 35 ans, il fait le pèlerinage à la Mecque. Il retournera après, donc pas pratiquement du tout, je dirais pas du tout en Espagne, mais il finira par s'établir à Damas. Et puis il a circulé pas mal, puisqu'il a enseigné longtemps à la Madrasa Mosonsari à Bagdad, aussi, donc qui est un lieu formidable. Et je pense qu'avec lui, on a atteint en fait le sommet de la réflexion profonde philosophique. Moi, aujourd'hui encore, c'est le grand référent. Et beaucoup de confréries y reviennent. Donc, et nous, l'Algérie a aussi ce lien grâce et à cause de l'Émir Abdelkader aussi. J'ai les deux, grâce et à cause donc de l'Émir Abdelkader, qui, en étant libéré en 1852 par Napoléon III, a choisi d'aller à Damas. Et d'abord, il a acheté les maisons, deux maisons qui appartenaient à Ibn Arabi. Ça lui vivait lui, la seconde lui vivait son frère. Et que la sienne aujourd'hui est devenue un lieu pour les personnes retraitées.
Donc. Oui, parce que l'émir Abdelkader disait qu'il a reçu l'investiture spirituelle en songe, en rêve, d'Ibn Arabi.
Exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces choses nous rattrapent. Dans le sens où moi-même, chaque fois que je travaille sur ces mystiques, de toute façon, je suis allé sur leurs traces, je suis allé à la maison natale d'Ibn Arabi, j'ai fait tout le cheminement de traversée de Gibraltar, bon, et tout le parcours qu'il a fait pour me retrouver aussi bien à Bagdad, à la Madrasa Mosonsariya, qu'à Damas aussi, donc, à la mosquée où il est enterré, et en même temps, où l'émir Abdelkader était enterré, parce que malheureusement, j'en sais rien, mais moi je le dis pour moi, malheureusement, les restes de l'émir ont été transférés en Algérie du temps de Boumedienne pour servir de symbole au nouvel État donc national algérien. Il leur fallait un héros et Mouhedine, malgré son choix personnel, a été déplacé.
Enfin, l'émir Abdelkader.
Oui, a été déplacé. Et juste pour faire une parenthèse, l'émir, quand il a été donc lâché et trahi par la parole donc du duc d'Aumale, a été enfermé à Pau avec une partie de sa famille. Retransféré par la suite donc à Amboise, au château d'Amboise. Il y a quelques années, j'ai créé, je pense que vous l'avez vu vous-même, je pense.
Vous avez revu, je ne dirais pas la nécropole, mais en tout cas le cimetière.
J'ai construit un lieu que je n'ai pas voulu appeler cimetière, je l'ai appelé Jardin d'Orient. Pour lui donner une connotation d'abord de tous nos rêves, les uns et les autres, de cet Orient fantasmé, rêvé, et mis au haut de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, j'étais allé une fois par hasard, donc, là-bas. Et puis, il y a eu une histoire de petits chiens qui ont fait pipi dans cette zone. Et j'avais décidé de créer un lieu, donc, de mémoire. J'ai rencontré le conservateur en chef, donc, du lieu, Monsieur Sureau, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et d'amitié. Et, à l'époque, le comte de Paris venait de décéder. Et je lui ai dit, écoutez, ça ne peut pas rester comme ça, cette terre battue comme ça, avec des corps dans une fosse commune. Ça serait quand même important de faire un lieu de mémoire qui soit discret et met à la mesure en même temps de l'histoire qui s'est passée dans ce lieu. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le château de François Ier, un des grands rois de France, que l'ami artiste Léonard de Vinci a sa chapelle sur le même lieu. Donc, c'était bien de faire cette habitation de nos défunts ensemble. Et ce lieu a été... Alors, pourquoi j'en parle? Parce que, comme lui est allé en Syrie, en laissant ses corps, il y a 25 corps qui sont restés, de ses enfants, de ses époux, de ses frères, domestiques, etc. Je voulais faire une chose, un geste symbolique, comme s'il revenait retrouver ceux qu'il a laissés en partant en 1852. Donc, j'ai décidé que toutes les pierres soient réalisées à Alep. Et les bronzes ont été coulés à Damas. Donc, et c'est pour ça que je rends un hommage extraordinaire à ces deux villes, parce que quand même la Syrie a accueilli les réfugiés algériens de l'époque de la colonisation. D'ailleurs, il y a le quartier que vous connaissez, Mouhajiri.
Et là, l'Algérie accueille les réfugiés syriens. Donc
c'est
une sorte de... On s'acquitte d'une dette.
D'une dette. Et je pense que quand j'ai fait ce lieu, peu de gens y croyaient. Parce que d'abord, quand Paris, venait de décéder, il n'y avait pas d'argent dans la caisse de la famille royale, donc c'est la Fondation Saint-Louis. Il a fallu d'abord faire le projet, le présenter à la Fondation Saint-Louis, qu'elle accepte. Après, il faut que ce soit les monuments historiques qui l'acceptent. Et troisième étape plus dure, que je trouve de l'argent. Donc, ce projet existe aujourd'hui.
Bien sûr, les Jardins d'Orient.
Voilà, donc pour que beaucoup de gens et beaucoup de confréries, je vous montrerai tout à l'heure des images, beaucoup de confréries aujourd'hui font le pèlerinage sur ce lieu.
Enfin, nos auditeurs ne les verront pas, mais moi je serai un peu leur porte-parole, je pourrais les décrire, les images.
Mais bon. Voilà, vous pourrez les décrire. Et puis ces tombes, quand vous les verrez, donc au château d'Amboise, elles ont une forme de Kaaba. Pourquoi donc Kaaba? Parce que tous les gens qui sont décédés ne sont pas allés à la Mecque.
Kaaba étant cette forme cubique de la demeure de Dieu qui se trouve à la Mecque.
À la Mecque, autour de laquelle les gens pèlerinent, tournent autour. Donc l'idée, c'est de faire pour chacun d'entre eux sa Kaaba, avec la pierre d'Alep, de ce pays qui a accueilli les autres. Et puis en même temps, leur nom était coulé en bronze. Et l'idée, c'est que ça sert presque comme sextant solaire, le nom. Donc l'ombre est portée sur la pierre et que le soleil elle tourne autour de la pierre comme les musulmans tournent autour de la Kaaba à la Mecque. Donc c'est symbolique. Tout le champ autour de ces pierres est de l'armoise. L'armoise, c'est une plante que nous utilisons beaucoup dans les zones de montagne et en Algérie, peut-être ailleurs, qui est très amère et qui guérit les maux d'estomac. Et l'émir l'utilisait à la fois pour lui et pour ses chevaux au moment des combats. Parce qu'à l'époque, tous les gens ont en mémoire les images des cavaliers avec des longs mousquetons qui dépassent entre les oreilles des chevaux. Donc, quand il y a les détonations, les chevaux dégagent un suc gastrique qui arrange l'estomac. Et l'armoise nappe l'estomac pour enlever ses irritations. Et au milieu de cette amertume qu'est l'armoise, j'ai planté des jasmins qui ont le symbole de la douceur, du parfum et de la fragilité. Donc c'est amertume et douceur en même temps, parce que ces gens sont assez loin de leur terre, etc. Voilà, je résume.
Mais vous avez bien fait.
D'Ibn Arabi, part donc aussi à la jonction avec l'émir Abdelkader, et aujourd'hui, ce qui se passe au château d'Amboise.
Oui, vous avez bien fait. C'était plus qu'une incise de parler de ce jardin d'Orient du côté du château d'Amboise. Et avec le lien, puisqu'il y a effectivement un lien direct par songe, par-delà les siècles, entre le grand maître Ibn Arabi et l'émir Abdelkader, dans sa version d'homme mystique. Nous nous approchons petit à petit de la fin de l'émission. Je renvoie simplement les auditrices et les auditeurs à aller voir l'ouvrage directement, Les Maîtres Invisibles, et toute cette beauté des étendards, des photographies de vos étendards en coton. Quel message voulez-vous donner à travers ce livre, Rachid Qureishi?
Moi, avant de...
Que vous dédiez à l'humanité, comme vous avez dit.
Ça, c'est un peu prétentieux, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que c'est un petit grain de sable dans la plage de ce qu'est toute l'histoire donc de la culture et de l'humanité. Je veux d'abord rendre un hommage aux artisans qui ont fait ce travail avec moi. Parce que je me suis installé pratiquement 3 ans au Caire, comme avant je me suis installé 3 ans à Damas pour des projets, 3 ans à Alep, au Michigan, à San Francisco, etc.
Et vous êtes allé au Daguestan, vous êtes allé au Pérou, vous êtes allé au Japon, donc pour créer les choses.
Donc là, donc cette tradition de ce travail a été faite dans un lieu du Caire, près de la Bibliothèque nationale, qui s'appelle le Souk Riyamiyah, c'est-à-dire ceux qui font les tentes.
Mais le marché détente ou détenture ou quelque
absolument.
Chose comme ça.
Absolument. Ou d'ailleurs, pour l'évoquer, ce grand ami décédé, Jamel Retani, son père travaillait là dans le Sucremia, dans l'atelier, avec l'atelier où je réalisais ces pièces. Et où la Zawiya de notre confrérie, la Tidjania, est installée à 200 mètres. Pratiquement.
Oui, une Zawiya étant gros, allez, on va dire simplement une confrérie.
Une confrérie oui. soufie. Et donc, c'est que des hommes qui travaillent, aucune femme. Les hommes commencent à 5h du matin, après la prière de l'aube, sont assis dans des lieux où ils sont 4-5. Donc, il y avait après une vingtaine de personnes qui ont travaillé pendant 3 ans à ce travail-là. Donc, la technique n'est pas de dessiner une chose, de découper des tissus, de les recoudre. Non. En fait, je fais un peu le schéma rapide. Je dessine chez moi sur des calques rigides, donc tous les dessins, au quart de la pièce réelle. Je les agrandis par la suite sur papier, qu'on perfore, qu'on fend les couturières pour revenir à ma mère. Donc, avec une roulette pour faire les perçages. Et après, avec de la poudre de charbon, on retrace sur le coton, donc la trace du dessin. Et l'artisan a un dé au doigt, une aiguille et une paire de ciseaux. Donc, il suit avec un textile de coton noir le dessin, il coupe et il coud. Il coupe en suivant la forme du dessin.
Ce qui donne la forme des surpiqûres, comme on l'aurait
c'est
sur surpiqûres. Une veste.
En fait, ce que c'est un coton appliqué, ce qu'on appelle des appliqués, l'appliqué sur un autre. Et les pièces sont quand même 3,10 m sur 2,10 m. C'est pas des petites pièces, donc c'est énorme. Mais on a 99.
Oui. Alors, vous avez fait exprès, ce sont les appellatifs divins, les
absolument.
Bons noms de Dieu.
Alors. Je fais un truc léger de mathématiques. En fait, moi, je travaille tout le temps sur le chiffre 7. C'est un chiffre numérique de toutes les religions, qu'elles soient judaïques, chrétiennes, musulmanes, etc., shintoïstes, bouddhistes, brahmanes, etc. Je n'irai pas dans les détails tout de suite, parce que le temps est serré. Mais
oui,
l'idée,
là,
c'est 7 fois, serré, en même. Fait, c'est 7 fois 7, 49. Deux fois, ça fait 98. Et une seule est dédiée aux 99 noms de Dieu. Donc l'unique, donc c'est la pièce unique qui reste à la fin. Ce projet a été présenté en 2010 au musée de Munich par Chris Dacon, qui vient de quitter la direction de la Tate moderne de Londres et qui a écrit un énorme texte qui est d'ailleurs dans le livre, donc qui suit ce livre. Et à l'époque, Chris Dacon a monté ce projet lié à une première expo qui a été faite à Munich en 1910. Et moi, en 2010, un siècle après, autour des arts de l'islam, il a fait venir des pièces de la première expo de 1910 au milieu de ses étendards. Ces pièces sont présentées à Paris, donc pour la première foire d'art contemporain africain, qui a lieu donc au carreau du Temple, donc qui va être, donc je suis l'invité d'honneur donc pour ce projet, et je tenais absolument à montrer ces pièces à Paris pour la première fois.
Eh bien, vous avez bien fait. Merci infiniment, Rachid Qureishi. Merci de nous avoir édifiés à travers votre livre, Les Maîtres Invisibles, paru et édité chez Actes Sud. C'est un bel ouvrage. Je rappelle que vous êtes artiste peintre, graveur, urbaniste aussi, vous-même un homme d'une grande spiritualité. Et merci pour votre témoignage. Vous étiez, chers amis auditeurs, sur Questions d'Islam, une émission de France Culture. Et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée par Bruno Mourlan et la réalisation est toujours assurée par l'ami Franck Lila.
ذكر رب العالمين لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله
هي شفاء الصدور هي نور فوق نور ذكر ربي الغفور لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه
النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله
لا إله إلا الله